Donc d'abord, merci aux organisateurs et organisatrices de cette journée. C'est vraiment chouette d'avoir été invité, de pouvoir participer à toutes ces communications intéressantes. Donc moi, ma communication va porter sur les liens entre l'agisme et le validisme et sur l'impact que ces deux systèmes idéologiques ont sur les représentations des personnages âgés et des personnages âgés handicapés dans les jeux vidéo. Je vais présenter quelques représentations de personnages âgés et valides ou âgés et handicapés et je vais essayer de comprendre ce que ces représentations véhiculent et aussi qu'est-ce qui fait que ces représentations sont globalement très rares et que lorsqu'elles existent, elles sont lissées et stéréotypées. Donc je vais commencer par quelques définitions. Alors je ne vais pas revenir sur la définition de l'agisme parce que plusieurs personnes l'ont déjà évoquée hier. Je vais juste noter que les thèmes de la maladie, de l'infirmité, de l'impuissance et de l'inutilité qui sont liés à l'agisme sont aussi communs au handicap, que ce soit lié au handicap par l'idéologie ou que ce soit quelque chose qui est réellement vécu par les personnes handicapées, et que ce sont des notions qui sont dévaluées par la société. Donc le validisme et surtout l'antivalidisme essayent de redonner de la valeur à ces notions et d'analyser pourquoi elles sont considérées comme si négatives. Donc, le validisme, c'est un concept qui a été développé par le champ de Disability Studies, donc qui est un champ anglophone. En France, c'est très peu utilisé, mais ça commence à arriver. C'est l'ensemble des idéologies et des pratiques qui organisent l'oppression et les discriminations des personnes handicapées. Donc, Fiona Kumari Campbell, qui est une des autrices très importantes de ce champ universitaire, le décrit comme, je cite, un réseau de croyances, processus et pratiques qui crée une sorte particulière de corps et d'être, le standard corporel, qui est projeté comme l'humain parfait, typique de l'espèce et donc essentiellement et totalement humain. Le handicap est alors construit comme un état diminué d'humanité. Fin de citation. Donc, un des stéréotypes principaux du validisme est que le handicap est la fin de toute vie significative, que les personnes handicapées ont une vie qui est forcément misérable, pitoyable, triste, sans aucun intérêt, et ça va parfois même jusqu'au fait de suggérer que le handicap est pire que la mort. Donc, c'est quelque chose qui est donc combattu par l'antivalidisme et qui est très important à prendre en compte dans l'agisme, puisque les notions de maladie, d'infirmité, d'inutilité sont liées à l'âge. Que ce soit réellement ou que ce soit par l'idéologie. Et donc, c'est important d'essayer de les analyser et de comprendre pourquoi elles sont dévaluées. En analysant l'agisme, en lisant quelques articles dessus, on voit rapidement qu'il y a une polarité entre les personnes âgées, qu'il y a deux catégories globalement. Une catégorie des personnes qui réussissent à répondre à la tyrannie du bien vieillir, c'est-à-dire qui vieillissent tout en restant relativement jeunes dans leur comportement et dans leurs caractéristiques, c'est-à-dire qu'elles restent productrices, consommatrices, qu'elles restent dans la société, qu'elles ne se retrouvent pas inactives. Et par contre, à l'opposé, il y a les personnes qui n'arrivent pas à répondre à ces attentes de jeunesse, qui sont très souvent des personnes âgées handicapées, mais pas forcément et pas toutes. Et donc ces personnes-là sont beaucoup plus stigmatisées que les personnes vieilles qui arrivent à rester productives. Une partie de l'étude de l'agisme dénonce le fait que les personnes âgées sont souvent décrites comme malades, comme inactives, comme peu productives. Et c'est quelque chose que je questionne parce que je comprends l'idée de dire que ce ne sont pas des caractéristiques qu'il faut automatiquement lier à l'âge, mais il n'empêche que c'est des caractéristiques qui décrivent effectivement certaines personnes âgées. Et ces caractéristiques sont souvent décrites comme des stéréotypes négatifs. J'ai noté une citation que j'ai prise dans un article qui analyse l'agisme sur les médias, qui dit: l'idée reçue que les personnes âgées sont chroniquement malades ou à la charge des autres et donc qu'elles n'apportent plus rien à la société. Donc ça, c'est noté comme un stéréotype négatif. Et d'un point de vue antivalidiste, on peut questionner le fait que ne rien apporter à la société soit une chose négative, parce qu'on peut considérer que quand on a la retraite, c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire et qu'on peut se préoccuper de nous, qu'on peut apporter quelque chose ou ne pas apporter quelque chose. Et aussi questionner le fait qu'être chroniquement malade et à la charge des autres soit opposé au fait d'apporter quelque chose à la société, puisqu'on peut très bien être malade et apporter plein de choses à la société. Donc c'est un des axes où ça me paraît intéressant de croiser l'agisme et le validisme. Donc juste quelques chiffres rapidement pour appuyer le fait que c'est important de parler de handicap quand on parle de vieillesse. Je n'ai pas trouvé de statistiques sur le pourcentage de personnes âgées qui sont handicapées. Par contre, j'ai trouvé des statistiques. Donc, sur la population en général, 15% de la population mondiale est estimée handicapée et 97% des invalidités sont acquises, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas de naissance. Donc, globalement, plus on vieillit, plus on a de chances d'être handicapé. J'ai trouvé une autre statistique qui dit que 43% des personnes en situation de handicap en 2015 avaient plus de 50 ans. Donc, ça souligne le fait qu'on est plus facilement handicapé quand on est vieux. Et dans la représentation que j'ai trouvée dans les jeux vidéo, ce n'est pas du tout le cas. Les personnes âgées sont rares, mais les personnes âgées handicapées sont encore plus rares. Alors, je vais d'abord préciser les spécificités du médium du jeu vidéo. C'est un médium qui est complexe puisqu'il allie plusieurs niveaux qui peuvent porter du sens. Donc, à la fois, il utilise de la narration, des images et du son qui peuvent être étudiés avec des moyens d'analyse qui sont communs aux autres médias. Et par contre, il y a la spécificité d'avoir de l'interactivité, du gameplay. Donc, le gameplay, c'est un terme qui désigne l'ensemble des règles du jeu et le choix des contrôles. Ça vient de l'anglais how the game plays. Donc, comment est-ce qu'on joue au jeu? C'est tout ce qui constitue les règles du jeu et c'est donc ce qui peut porter du sens dans un jeu. Donc, la narration, les images, ça, on a l'habitude de considérer que ça porte du sens. Mais les règles de jeu, c'est un petit peu plus récent de considérer que ça peut porter des rhétoriques. Et donc, c'est en partie ça que je vais analyser. enfin, principalement, c'est important parce que dans ce que j'ai remarqué dans mes analyses de personnages handicapés et aussi dans mes analyses plus récentes de personnages âgés, c'est que autant au niveau de la narration et de l'image, le handicap et la vieillesse peuvent avoir une petite place dans les jeux vidéo qui n'est pas extraordinaire mais qui est quand même là. Par contre, au niveau des règles de jeu, là, ça paraît extrêmement difficile de représenter de l'âge ou de la vieillesse dans les règles de jeu. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les représentations que je vais vous présenter. Je vais utiliser la méthodologie sociocritique, donc en considérant les jeux vidéo comme des textes puisqu'ils sont un ensemble de signes. Et donc, c'est une méthodologie qui propose de comparer les contenus des œuvres avec les idéologies dominantes puisqu'elle stipule que les œuvres incorporent de manière non consciente les idéologies dominantes de leur époque. Donc les jeux que j'ai choisi d'analyser ont été choisis de manière totalement arbitraire. J'ai essayé de me souvenir dans les jeux auxquels j'avais joué de où est-ce que je retrouvais des personnages âgés. J'ai demandé à certains proches de faire la même chose. Je n'ai pas trouvé de statistiques du nombre de personnages âgés dans les jeux vidéo et j'en ai pas analysé assez pour tirer des conclusions précises statistiques. Mais par contre, on peut quand même noter qu'on a eu du mal à trouver des personnages âgés et principalement des personnages âgés jouables, c'est-à-dire que les joueurs et joueuses peuvent actionner. Au niveau des personnages non joueurs secondaires, on en a quand même trouvé un certain nombre. Donc, je vais d'abord parler d'un jeu, enfin, de trois jeux où il y a beaucoup de personnages secondaires handicapés. Donc, j'ai pris trois jeux de la série des Zelda. Les Zelda, c'est une série de jeux à gros succès qui existe depuis 1986, avec de très nombreux jeux dont certains sont classés comme meilleurs jeux de tous les temps par différents magazines. Donc, c'est une série extrêmement mainstream et qui est assez représentative des habitudes qui sont dans le milieu du jeu vidéo. J'ai choisi d'en prendre trois parmi les 19, donc un de 2000, un de 2003, un de 2011. Donc j'ai compté le nombre de personnages âgés dans les différents jeux et après j'en ai fait des statistiques générales. Vous voyez qu'il y a plusieurs chiffres à chaque fois parce qu'il y a plusieurs personnages où c'est difficile de savoir si on les classe comme âgés ou pas parce qu'on ne connaît jamais l'âge des personnages dans les jeux vidéo et parce qu'il y a par exemple des dieux ou des entités ou des esprits de la nature qui ont effectivement 5000 ans, 10 000 ans, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un dieu immortel est vieux? Donc j'ai en gros classé les personnages en fonction de s'ils avaient des caractéristiques au niveau de la narration ou du visuel ou du gameplay qui les liaient à des caractéristiques liées à l'âge. Donc, sur tous les jeux, j'ai constaté qu'il y avait entre 7 et 9,6% de personnages âgés. Donc, en France, on estime qu'il y a 18% de personnages âgés, donc on est assez loin de la réalité. J'ai aussi fait des statistiques par genre parce que ça me paraissait assez parlant. Donc, on voit qu'il y a 8 femmes sur 27 personnages âgés dans les 279 personnages de ces jeux. Au début, je me suis dit que c'était donc lié à l'âgisme qui fait que les femmes ont encore moins le droit de vieillir dans les médias que les hommes. En fait, je pense que c'est tout bêtement du sexisme parce que si on prend l'ensemble des personnages de ces trois jeux, on arrive à 21,5% de femmes. Donc, en fait, les jeunes subissent autant de sexisme que les personnes âgées. Il y a trois personnages handicapés dans ces 27, ce qui arrive à 11,1%. Donc, on n'arrive pas aux 15%, mais c'est quand même pas si mal, sachant que ce sont les trois seuls personnages handicapés du jeu. Donc, si on prend le nombre de personnages handicapés sur l'ensemble du jeu, on arrive à 1,1%, ce qui est très loin des 15% de la réalité. Donc, l'impression que j'ai eue en analysant ces trois jeux de Zelda, c'était que le handicap pouvait être un petit peu plus admis comme faisant partie de l'humanité, comme n'étant pas quelque chose d'extraordinaire quand c'est attribué à des personnes âgées ou quand c'est à des personnes jeunes. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est généralisable à d'autres jeux, mais c'est le cas dans celui-là. Alors, c'est intéressant de regarder les rôles qu'ont ces personnages. Le rôle qui est très majoritaire, donc avec 18 personnages sur 27, c'est le rôle de sages, de personnes qui ont accumulé de l'expérience, de la connaissance et du pouvoir. Sans surprise, ce sont presque tous des hommes. Il y a une seule femme dans ces 18 personnages. Donc, c'est assez intéressant parce que ce sont les personnes âgées qui sont le moins stigmatisées par la société, celles qui ont un rôle actif, qui sont productives, qui participent de manière. Enfin, qui participent à la société d'une manière qui est valorisée socialement. Donc, on a par exemple des professeurs de combat qui sont très vieux, mais qui se battent comme des jeunes. Donc, plein de choses comme ça qui ne sont pas forcément très réalistes. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que 2 sur 3 des personnages handicapés font partie de cette catégorie, alors que les personnes handicapées sont d'habitude plutôt reléguées à des rôles passifs. Là, c'est quand même des personnages importants. Désolé, j'ai un peu une extinction de voix, j'ai du mal à parler. Donc les autres rôles des personnages qui sont minoritaires et qui sont surtout tenus par des femmes. Donc il y a quatre personnages qui sont des marchandes ou des guides touristiques. Là, j'ai pas grand-chose à en dire parce que ce sont des rôles qui pourraient être tenus par des personnes jeunes, il n'y a pas vraiment de spécificité. Et après, il y a les personnages improductifs, donc d'un point de vue capitaliste, parce qu'elles font quand même des choses dans le jeu, mais en tout cas, elles n'ont pas de travail, elles ne produisent pas de valeur, dont deux qui sont simplement appelées grand-mère, tout court, ou grand-mère d'un autre personnage. Donc c'est majoritairement des femmes, mais il y a quand même deux hommes. On pourrait dire que c'est problématique de représenter des personnages âgés comme étant improductifs et comme ayant peu de rôle, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, que seulement 5 personnes âgées improductives, donc à la retraite parmi l'ensemble de ces personnages âgés, c'est quand même assez étonnant qu'il y en ait aussi peu, puisque dans la réalité, les personnes âgées sont quand même rapidement à la retraite. Donc je trouve que c'est encore une manière de valoriser uniquement les rôles dans la société qui sont les rôles de productivité qui sont déjà valorisés dans l'ensemble de la société. Ce qui est intéressant avec, que j'ai oublié de dire par rapport au rôle de sage, c'est que les jeux vidéo sont très souvent centrés sur la notion d'accumulation de connaissances, de progression, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais donc là, on voit que l'aspect de la vieillesse qui a le plus sa place dans les jeux vidéo, bah, c'est l'aspect de la vieillesse qui est le plus compatible avec l'idéologie dominante des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de progresser et que c'est la progression et l'expertise et l'accumulation de connaissances qui est importante. Alors, je vais décrire un petit peu plus précisément les trois personnages handicapés qu'on a. Donc, ils sont certains stéréotypés, certains moins. Problématique, c'est donc Lanelle, qui est un dieu, qui est un dragon, qui est représenté comme un personnage handicapé qui a très peu de rôle dans l'histoire, qui ne bouge pas, qui ne peut pas chanter alors qu'il est censé nous apprendre une chanson. Et en gros, c'est le stéréotype de la personne handicapée qui ne sert à rien, qui n'a pas de rôle dans la société. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que son scénario est une quête de guérison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le soigne, là, il a un rôle important dans l'histoire, il fait plein de choses, il bouge, il parle, il nous donne des choses. Et donc, on a vraiment cette opposition de quand il est malade et handicapé, il est inutile, et pouf, il devient utile quand il est soigné, ce qui est assez problématique. Après, la grand-mère d'Anjou, on notera qu'elle n'a pas de nom, elle est juste grand-mère d'eux. Elle a un stéréotype agiste qui est qu'elle nous raconte des histoires qui sont tellement soporifiques que si on n'a pas un objet spécial pour l'écouter, on s'endort à chaque fois. Donc c'est un stéréotype agiste qui est quand même assez négatif. Par contre, au niveau du handicap, elle est en fauteuil roulant, elle ne bouge jamais, elle est toujours aux deux mêmes endroits du jeu. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment un stéréotype dégradant parce que ça pourrait l'être dans une histoire, mais dans les jeux vidéo, les personnages non-joueurs qui ont un seul but dans le jeu, c'est d'attendre que le joueur ou la joueuse arrive pour leur parler, sont assez fréquents. Donc en fait, elle n'est pas si stéréotypée que ça et c'est plutôt étonnant. Et après, le personnage que je trouve le plus intéressant, c'est l'ancêtre Goron, parce que donc lui, il est dans la catégorie des personnages qui sont des patriarches, qui sont des grands guerriers, qui sont des chefs. Donc là, il est plus guerrier, mais il est quand même très respecté dans son village. Et ce qui est extrêmement rare, c'est qu'il a beaucoup de caractéristiques qui rendent son handicap visible. C'est-à-dire qu'il se tient voûté, il marche lentement, il tremble, il a des problèmes de mémoire. Et quelque chose qui paraît peut-être pas extraordinaire à premier abord, mais qui l'est, c'est qu'il a des animations qui montrent ses caractéristiques. Et je crois que dans toutes les années, ça fait 4 ans que j'étudie les personnages handicapés dans les jeux vidéo, entre mes 2 années de mémoire et 2 années de thèse, et c'est le deuxième personnage que je trouve qui a une animation qui rend visible le handicap. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jeux vidéo, les processus d'animation sont extrêmement standardisés. Vu qu'à partir du moment où on a fait une animation, on peut la copier-coller et la dupliquer sur tous les personnages. Donc en général, tous les personnages ont des animations extrêmement standardisées et donc qui correspondent au standard corporel valide. Donc ces personnages, à part le dragon, les deux, donc la grand-mère d'Anjou et l'ancêtre Goron, sont plutôt moins stéréotypés que ce qu'on trouve habituellement pour des personnages handicapés dans les jeux vidéo. Et donc encore une fois, ça me fait me demander si c'est parce qu'ils sont vieux que c'est comme ça, et parce que le handicap est un petit peu plus considéré comme normal et comme faisant partie de la vie quand on est âgé. Encore une fois, ça ne peut pas être généralisé, mais dans ce jeu, c'est l'impression que ça me fait. Je vais passer à des analyses de personnages jouables, cette fois qui sont âgés. Donc, j'en ai trouvé aucun qui soit à la fois âgé et handicapé. J'ai choisi d'analyser des jeux de combat parce que c'est un jeu où, étonnamment, il y a quand même pas mal de personnages âgés. J'ai trouvé 2 jeux où il y en a 3, donc 3 sur 21 et 3 sur 46. Là, il n'y a pas énormément de choses à en dire parce qu'en fait, ils correspondent totalement à l'idéologie du bien vieillir, c'est-à-dire que ce sont des jeunes avec des cheveux gris et des rides. Il n'y a aucune différence dans leur gameplay, donc c'est-à-dire dans leurs règles avec les jeunes. Ils combattent à égalité avec les autres personnages. Il n'y a pas de spécificité dans leur style de combat, c'est-à-dire qu'ils tapent avec leurs poings ou ils ont des pouvoirs magiques, mais les autres aussi, ils ne se battent pas comme s'ils étaient âgés et ils n'ont aucun handicap. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que autant dans la narration et dans l'image, on se rend compte que la vieillesse peut avoir une petite place dans les jeux vidéo, autant au niveau du gameplay et des règles, là, ça paraît beaucoup plus difficile. Je vais vous parler donc d'un jeu indépendant qui est un petit peu différent des jeux précédents qui étaient des jeux mainstream, parce qu'il donne un rôle central à une personne âgée et qui a quand même, où l'âge se sent dans son gameplay, c'est-à-dire qu'elle est très lente. C'est un jeu que je trouve intéressant parce qu'on voit vraiment la confrontation entre la volonté des créateurs et créatrices de faire un personnage âgé et un petit peu original et les habitudes de gameplay qui font qu'on crée des jeux qui sont basés sur des notions de performance, d'optimisation, d'efficacité, de rapidité. Et donc les deux se confrontent et en font un jeu très étrange et très intéressant. Donc c'est un jeu narratif qui est une simulation de ferme, qui s'annonce comme un jeu plutôt paisible, avec un style graphique qui est plutôt agréable et qui appelle à la contemplation. On incarne Alma, qui est une vieille fermière, qui se déplace lentement, qui fait toutes ses actions avec un rythme plutôt paisible et tranquille, qui siffle, enfin, donc l'ambiance du jeu est très travaillée, très sympa. Et là où ça devient étrange, c'est que les compétences demandées aux joueurs et joueuses pour gagner dans le jeu ne sont pas du tout cohérentes avec cette ambiance, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire une sorte de course au ralenti, parce que toutes les actions se passent à un rythme très lent, mais par contre on doit les faire très vite, parce que sinon on n'arrive pas à faire pousser assez de légumes et à faire assez de fromage pour nourrir nos chèvres et nous nourrir. Donc moi très vite, mes chèvres sont mortes dans ma partie. J'ai pas continué le jeu assez longtemps pour mourir, mais en fait c'est un jeu qui est en fait extrêmement difficile, extrêmement contraignant. Ce qui est étonnant aussi, c'est que ça ne simule pas du tout l'expertise de la vieille dame, puisqu'elle est censée utiliser sa ferme depuis des années, donc elle devrait savoir comment faire. Sauf que les joueurs et joueuses se retrouvent devant plein d'éléments avec lesquels on peut interagir sans aucun tutoriel. Donc globalement, au début, on ne comprend rien et on fait n'importe quoi. Et c'est vraiment étonnant parce que d'habitude, dans les jeux vidéo, ce qu'on a vu avec les personnages de Zelda, c'est que la partie de la vieillesse qui intéresse les créateurs et créatrices de jeux, c'est l'expertise, la compétence. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une femme? Peut-être, je n'ai pas l'explication. Et je ne sais pas non plus pourquoi le jeu, si c'est une volonté, si c'est pour donner un message que le jeu est aussi difficile, mais moi j'interprète vraiment ça comme l'incapacité à imaginer un gameplay qui ne tourne pas autour de la productivité, de la rapidité, de l'efficacité. Donc après ces quelques analyses de jeu, donc il y en a beaucoup d'autres qui ont quand même des personnages âgés, mais c'est toujours un peu, enfin en tout cas dans tous les autres que j'ai analysés, c'est toujours un peu la même chose que au niveau du gameplay, il y a très peu d'impact des parties de la vieillesse qui sont le plus stigmatisées, donc je cherchais à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça paraît si difficile de représenter certains aspects de la vieillesse et du handicap dans la mécanique de jeu? Et j'ai trouvé qu'il y a plusieurs habitudes de game design qui sont opposées aux valeurs liées à la vieillesse et au handicap, que ce soit opposées aux valeurs réellement liées à ces deux catégories de personnes ou qu'elles y soient liées par l'idéologie. Donc la première catégorie dont j'ai déjà un peu parlé, c'est le fait que les jeux sont extrêmement centrés sur l'apprentissage et le gain de compétences. C'est vraiment quelque chose qui est central dans les jeux, c'est de faire apprendre des choses aux joueurs et joueuses, de faire apprendre comment jouer. Et souvent, les niveaux de jeu sont construits autour de l'apprentissage de mécanique, c'est-à-dire que les méthodes de création de jeu, de rational game design, comme on appelle ça, sont basées sur le fait qu'on répartit l'apprentissage de connaissances au fil du jeu. À la fois, ça sert à contrôler la progression des joueurs et joueuses dans le jeu, c'est-à-dire que les niveaux sont bloqués et que c'est une manière de bloquer l'accès à certains niveaux, de faire qu'on ne peut y accéder que quand on a certaines compétences. Et à la fois, c'est quelque chose qui est utilisé pour renouveler le gameplay, pour le rendre intéressant dans des jeux qui durent souvent des dizaines d'heures. Ce qui est étonnant dans cette idée d'utiliser le gain de compétences pour faire évoluer le gameplay, c'est qu'on pourrait totalement imaginer l'inverse, c'est-à-dire qu'au début, on a beaucoup de compétences et donc on a plein de manières de résoudre certaines situations, et petit à petit, on perd des compétences, donc on doit jouer de mieux en mieux, utiliser de mieux en mieux les compétences qui nous restent, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans aucun jeu, ou alors de manière très anecdotique, pendant 10 minutes sur un jeu d'une soixantaine d'heures. Mais donc, on considère vraiment, chez les game designers mainstream, que faire gagner des compétences aux joueurs et être dans la progression constante est quelque chose d'indispensable. Et donc, on peut toujours apprendre des choses quand on est âgé ou quand on est handicapé, mais en général, on considère plutôt que les personnes âgées ont déjà accumulé beaucoup de connaissances et que ce qu'elles apprennent est plutôt anecdotique par rapport aux connaissances qu'elles ont déjà. Donc, je pense que c'est une raison qui fait que c'est difficile de mettre certaines personnes âgées dans des jeux. Ensuite, quelques autres. Je ne sais pas si j'ai passé mes 20 minutes. Je vais essayer d'aller vite. Je crois que j'ai un peu dépassé.
Il vous reste une minute.
Une minute. Ah, super. Donc, il y a le fait que la méritocratie est inscrite au cœur des règles de jeu. C'est-à-dire que dans un film ou dans un livre, on peut tout à fait aller à la fin du livre ou du film, même si on a dormi pendant tout le film et qu'on n'a rien lu, et on a le droit d'avoir la fin sans avoir à la mériter. Dans un jeu vidéo, ça ne marche pas comme ça. Dans l'écrasante majorité des jeux, l'accès à certains contenus, et parfois à tout le jeu sauf le premier niveau, est dépendant du fait d'avoir bien joué, d'avoir mérité d'avancer. Donc encore une fois, ça donne de la valeur au fait d'être productif, au fait d'être performant, au fait d'être actif dans le jeu, et on ne peut pas accéder au jeu juste parce qu'on est là, juste parce qu'on a envie d'y jouer. Et si par exemple on est handicapé mais qu'on n'a pas les capacités parce que le jeu est inaccessible, on ne peut pas arriver à la fin du jeu. La nécessité d'être actif ou actif dans les jeux est également inclue dans une des règles que décrit Marc Albinet, qui est un concepteur de jeux vidéo et qui a écrit un livre sur les règles de game design, qui considère que les jeux vidéo sont tous constitués d'un ensemble de boucles sur le principe de objectif qui entraîne un challenge, qui entraîne une récompense. Ça pose le fait d'avoir un challenge au cœur des jeux vidéo et ça fait qu'on ne peut pas imaginer un jeu où on pourrait avoir des récompenses juste parce qu'on y joue, juste parce qu'on est là. Et ça place la notion de performance et de productivité au cœur du jeu, sachant qu'il considère que cette boucle-là est retrouvable à la fois au niveau macro, c'est-à-dire que l'ensemble du jeu est un gros challenge avec une grosse récompense à la fin, et que chaque action, par exemple, on tue un monstre, il y a un challenge de combat, on gagne un rubis, c'est une récompense, et donc que cette structure de jeu est réellement au cœur de ce qui fait qu'un jeu est un jeu. Après, un autre élément est que beaucoup de jeux sont basés sur une impression de maîtrise et de survalidité. La survalidité, je définis ça par le fait que la validité, comme la masculinité hégémonique ou l'hétérosexualité, sont des identités construites par performativité, et c'est-à-dire que c'est des idéaux inatteignables, et qu'en gros, personne ne correspond jamais totalement à l'idéologie valide, même les personnes qui ne sont pas handicapées. Mais par contre, dans les jeux vidéo, ça nous donne l'impression qu'on peut être encore plus valide qu'en vrai, notamment avec le fait que le level design, qui est la science de la création des niveaux de jeu, pousse à construire des niveaux qui sont sur mesure pour les capacités des personnages. Ce qui fait que, par exemple, on calcule l'écart entre les plateformes dans un jeu de plateforme par rapport à la compétence de saut du personnage, ce qui fait que dans les jeux vidéo, on a l'impression qu'on peut tout faire, qu'on est surpuissant, qu'on est encore plus fort qu'un être humain valide normal. Donc, c'est encore quelque chose qui éloigne et qui fait que représenter des expériences de handicap et de vieillesse de personnes vieilles et handicapées est extrêmement difficile dans les jeux vidéo. Et le dernier point qui est un peu évident, mais qui vaut quand même le coup d'être souligné, c'est que les concepteurs et conceptrices de jeux mainstream pensent que les jeux doivent obligatoirement être fun. Le fun est quelque chose qui revient régulièrement dans les définitions de ce que c'est qu'un jeu, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout obligatoire, mais dans les jeux mainstream, c'est considéré comme obligatoire. Et donc, les idéologies validistes et ageistes construisent les personnes handicapées et vieilles comme forcément ennuyantes, tristes et pitoyables. Et la seule place qu'on donne aux personnes âgées et handicapées dans les jeux vidéo, c'est pour des jeux médicaux et de rééducation, comme si c'était les seuls jeux qui pouvaient les intéresser. Voilà. Donc pour conclure, je pense que c'est important d'étudier à la fois le validisme et l'agisme pour comprendre, pour pouvoir avoir des représentations de personnages handicapés qui soient à la fois intéressantes, qui ne soient pas lissées, qui ne soient pas stéréotypées, et pour pouvoir avoir des représentations variées qui correspondent à la variété des personnes âgées dans la vie réelle. Ouais. Merci de votre attention.